plus pratique. Donc, pour commencer, je vais, voilà, comme l'a dit Samuel, on va essayer de partir du commencement pour attaquer cette journée, pour évoquer la question des métadonnées. Et j'accueille ma première intervenante en la personne donc, de Claude Delaporte, qui, en quelques mots, parce que je lui laisserai ensuite le soin de se présenter un peu mieux elle-même. Elle est donc professeure des universités en études cinématographiques et audiovisuelles à l'Université Paul-Valéry, Montpellier 3. Et elle s'est surtout spécialisée dans l'étude des genres cinématographiques, et notamment de savoir comment les genres sont des constructions au sein d'une industrie, comment ils sont créés pour répondre à des fonctions, et par la nature et en quelque sorte au public. Donc voilà, je vais vous dire, pour la parole, je vous laisse mettre cette réflexion au service donc, des métadonnées, de comment on peut s'en servir pour permettre la découvrabilité du documentaire.
Si vous prenez, je bon. Pourrais non.
Si tu veux passer ta diapo, tu.
Ouais, comme je peux me mettre debout.
Ah oui, t'as le petit. Tu veux la zaplette ou tu veux le.
Ah ouais, je peux bien la zaplette.
Ah, Stéphanie, t'as la zaplette.
Merci. Je me mets debout parce que je me disais quand j'étais assise, en fait, on ne voit pas les gens. Ah oui. Sans que vous êtes assis par terre. Je suis pas un côté convivial ici. En faisant un programme et là en écoutant l'introduction, je me disais qu'effectivement la fonction aujourd'hui est très introductive. Donc en fait, je mets tout le monde à l'aise, enfin, j'espère, sur son appel à un genre, et j'espère que ce sera utile aussi à l'exercice de cet après-midi que j'ai hâte auquel j'ai hâte de participer. Donc le titre, bon, je reviens pas dessus, hein, c'est a priori assez limpide. Je vais essayer d'incarner au maximum mon propos sur des exemples précis, et vous allez voir un peu ce que j'entends par l'idée de vous mettre à l'aise, au sens où je vais proposer une définition du genre qui parle vraiment d'une expérience quotidienne des spectatrices et qui, d'une certaine manière, nous autorise épistémologiquement à considérer le genre comme un construit expériencé au quotidien et pas comme quelque chose qui va descendre d'une espèce de considération théorico-académique uniquement. Alors, un premier temps, je suis sur l'idée que je défends, mais je ne suis pas tout seul, on m'a dit passé à dire ça, lié finalement au genre des films et que donc il s'agit d'un processus et pas juste d'une observation. Premièrement, l'idée que les films, il est fort bien en lourd ce micro, j'ai l'impression de faire du sport en même temps, les films changent de genre. Bon, alors ça, à la fois, on est tous d'accord, et en même temps, dès qu'on commence à le théoriser un petit peu, on s'aperçoit que finalement, tout le monde n'est pas si d'accord que ça, donc on va reprendre juste quelques exemples très très rapides. Premièrement, les films changent de genre selon l'époque. Alors, je vous écris, en fait, c'était très amusant quand j'ai préparé PowerPoint, je vous ai essayé de chercher des exemples, donc c'est très très inspiré de ma propre cinéphilie, ça n'est absolument pas représentatif, et j'aurais pu en prendre plein d'autres, mais ça me permettait de parler des films que j'aime bien. Prenons l'exemple de Frau Wimond, la femme sur la lune, film de Fritz Lang de 1922, qui, au moment de sa sortie, donc en 1922, qui avait déjà donné lieu à une exploitation internationale, donc qui avait été... Alors, marketé, le terme est un peu fort pour 1922, quoique, mais qui a été diffusé à l'international, donc qui a fait l'objet d'assignations, j'essaie de ne pas encore utiliser le vocabulaire que je vais vous proposer après, qui a fait l'objet d'assignations génériques très très tôt. Ce film, en 1922, il a été genré comme un céréal, plus comme un polar ou un céréal, parce que l'angle on le faisait déjà à l'époque, on était dans les années 20, etc. Et aujourd'hui, alors je vous ai mis... Je n'ai pas beaucoup cité au ciné, mais c'était quand même très pratique. Si on regarde la manière dont le film est genré aujourd'hui, sur IMDb ou sur Allociné, très vite, on va voir apparaître l'étiquette sci-fi, science-fiction. Et si vous parlez de Frau Wimond aujourd'hui, on va très très vite vous dire que c'est certainement un des premiers films de science-fiction, un film de la proto-histoire du genre de la science-fiction. Ce qui est très intéressant, c'est que personne n'utilisait l'étiquette science-fiction pour parler du cinéma à cette époque-là. Il a vraiment fallu attendre le début des années 50. L'étiquette existait, le genre existait pour parler des œuvres littéraires, mais absolument pas au sujet du cinéma. Donc, l'assignation de l'étiquette science-fiction pour parler de ce film-là, elle est vraiment rétrospective. Est-ce que pour autant ça en fait un faux genre? je ne crois pas. Mais il faut bien tenir compte, si vous voulez, en fait, de la dimension processuelle, en tout cas inscrite dans le temps de l'assignation générique. Deuxième exemple, on en parlait avec Samuel tout à l'heure, les films changent de genre selon le pays. Alors je vous ai pris un exemple que j'aime bien, qui est très lié aussi à la question du marketing, je vais y revenir après, Pearl Harbor, ce grand film de Michael Bay sorti en 2000, qui, je vous ai mis à gauche l'affiche originale nord-américaine et à droite l'affiche originale japonaise. Alors pour celle, je ne vais pas revenir sur le film, bon, le film pose tout un tas de problèmes en termes de véracité historique sur la question de Pearl Harbor. L'affiche américaine et tout le marketing américain s'est quand même concentré sur la question du war film, du film de guerre, et le film a été marketé comme tel, proposé comme tel, positionné comme tel sur les marchés. Et quand il s'est agi de le vendre au Japon, c'était beaucoup plus délicat de le placer comme un film de guerre, et en raison du sujet, et en raison de la... Je cherchais le contraire de véracité du caractère erroné du film en termes historiques. Donc, le film a été positionné comme une romance, ce qui illustre assez bien le changement de l'affiche. Mais ça se retrouve aussi dans des changements de scénario, etc. Et ça se retrouve aussi dans la manière dont le film est genré, en fait, sur un certain nombre, et au sein d'un certain nombre de catalogues. Autre exemple que je peux développer, le fait que les films changent de genre aussi selon le support. Quand on discute avec les distributeurs et distributrices, il n'est pas rare qu'ils nous parlent, du genre assigné à un contenu qui change selon qu'il s'agisse de le sortir en salle, de le distribuer en DVD et en Blu-ray, de le vendre à une plateforme. Donc un même film va être indexé à différents genres. Et par exemple, quand on travaille sur les logiciels qui sont utilisés par les distributeurs et distributrices pour trier, pour organiser leur catalogue, dans la plupart, en fait, dans la totalité des logiciels utilisés en interne, il y a une colonne genre, et un même contenu peut être indexé à différents genres selon le support, en fait, sur lequel il va être diffusé, ou selon le mode d'exploitation. Un bon exemple, si je parle justement de l'exploitation de DVD, c'est le fait que pas seulement le support, mais le contexte va permettre une modification de genre. Je vous ai pris quelques exemples de la Shaw Brothers, quelques films de la Shaw Brothers, donc qui sont des films qui étaient genrés initialement dans leur pays d'origine, là en l'occurrence à Taïwan, comme des Kung Fu Cam, comme des films de Kung Fu. Dans les années, début des années 80, quand il s'agit de diffuser ces films en France et sur les marchés occidentaux, la catégorie film de Kung Fu n'existait pas. Et quand bien même on l'aurait utilisé, elle était trop peu vendeuse. Donc on a créé la catégorie action. Le film d'action n'émerge qu'au début des années 80, quand il s'agit en fait de vendre tout un tas de films qui existaient sur d'autres marchés. Depuis, on peut utiliser un petit peu l'étiquette film de Kung Fu parce que ça s'est normalisé, parce que c'est devenu une étiquette utilisée, mais ça a vraiment donné lieu à l'émergence d'un genre propre qui est le cinéma d'action. Autre exemple, bon là c'est vraiment juste pour me faire plaisir, les films changent de genre selon le spectateur, la spectatrice. Bon, exemple classique, c'est pas juste une question d'interprétation, de variation d'interprétation, mais on peut avoir des genrations, tant pis, j'utilise mon propre vocabulaire maintenant, très différentes. Je prends un exemple familial. Pour moi, ce film, c'est le meilleur film du corpus Frankenstein, certainement. Pour mon mari, ça va être un classique monster, un universal classique monster hollywoodien. Pour ma fille de 15 ans, ça va être un film chiant de maman. Et pour ma cadette, ça va être un vieux film un peu rigolo, parce qu'il y a des petits personnages qui bougent un moment. Pour ma grand-mère, ça va être un film d'horreur, mais qui fait quand même pas assez peur. Bon. Cette variation interprétative, elle n'est pas le stigmate d'une erreur interprétative. Hein. Elle montre à quel point l'objet, il est support d'une construction de sens qui va varier selon les spectateuristes. Donc le genre ne dépend pas tant du film en lui-même, forme, contenu, thématique, j'insiste sur le etc., que de la position dans la filière ou au sein de la filière de celui, celle qui possède le film, quand je dis posséder le film, on est là en termes de droit, hein. Et donc de ses intérêts en termes économiques, marketing, éditoriaux, hein. On va genrer le film différemment selon les intérêts qu'on a à le marketer, à le positionner de telle ou telle manière. Le genre dépend aussi de la position du film au sein d'un line-up ou d'un catalogue, et donc de la place qu'il occupe par rapport aux autres, de ce qu'il incarne au sein d'un ensemble. par exemple, quand on travaille sur les plateformes, on s'aperçoit, quand on travaille notamment sur les genres, sur les plateformes, on s'aperçoit, et quand on discute avec les gestionnaires, qu'il y a un certain nombre de contenus qu'ils auraient genrés autrement, mais ce contenu se serait retrouvé seul au sein du catalogue. On veut éviter aux spectateurs ou à la spectatrice le fait de cliquer sur une catégorie qui aurait très très peu de profondeur de catalogue, dans lequel il n'y aurait que trois films indexés. Donc on va genrer les contenus autrement pour donner une impression d'occurrence générique. Donc la genration, elle est aussi très très dépendante de la place qu'occupe un film au sein d'un ensemble. Et enfin, de la position, bien sûr, sociale, culturelle du public, et donc de son habitus et de sa capacité, au sens de compétences spectatorielles, à conformer son interprétation générique aux attendus sociaux. En somme, les films ne sont pas porteurs d'un ou de plusieurs genres, mais sont genrés, hein, donc c'est un glissement de l'idée de genre à l'idée de genration, le fait que le genre n'est pas quelque chose d'inscrit dans le film, mais le produit d'un processus social, sémiotique, d'attribution, d'assignation d'une étiquette générique. Je vais un peu vite parce que je pense que, comme on est déjà en retard en plus, je dépasse le temps. Ça va un peu. Un petit point sur la genration des films documentaires, puisque je crois que c'est quand même ce qui nous occupe aujourd'hui, avec une question principale qui est de savoir est-ce que le documentaire est un genre ou est-ce qu'il existe des genres documentaires. Alors, je ne vais pas me lancer dans une exégèse ou dans un grand discours théorique sur ce que c'est que le documentaire, c'est absolument pas ma spécialité. Je vais me fondre, en fait, dans le cadre théorique que j'ai un petit peu placé, en disant qu'il ne m'importe pas tellement à moi de vous donner mon avis, en plus on s'en fiche un petit peu de savoir ce que moi, à titre personnel, j'en pense. En revanche, on va essayer de regarder ce qui est, on va essayer d'adopter un point de vue un peu pragmatique et d'aller regarder la manière dont les films documentaires sont genrés sur les différents supports, en l'occurrence sur quelques plateformes. Alors, ce ne sera absolument pas exhaustif, parce que le but était d'aller piocher quelques précis exemples. Sur l'Universciné, bon, on a une catégorie genre, le documentaire est présent au sein d'un certain nombre d'autres étiquettes. Sur Cinéma à la demande, la plateforme du distributeur métropolitain du film export, on a aussi la catégorie documentaire. Sur Canal VOD, intéressant, j'en reparlerai après bien sûr, la catégorie docu, là, un petit côté un peu intime, hein, l'impression d'avoir accès au petit nom du documentaire. Sur TF1+, pareil, on a les docs. Sur Arte, sur la boutique, on a la catégorie documentaire avec une singularité qui est qu'on peut accéder à différentes thématiques, ce que je vous ai mis là en bas, au sein de la catégorie documentaire. Sur Netflix, dans la partie sur la base film, on a une indexation générique assez traditionnelle dans laquelle on va retrouver les documentaires. Alors, je ne développe pas la question du singulier ou du pluriel, mais vous avez vu qu'il y a aussi une variation là-dessus. Sur la base série également, on a une catégorie série documentaire, d'autant que Netflix produit un certain nombre de séries documentaires, donc il faut les mettre en valeur au sein de l'indexation. Sur Prime, on a aussi une catégorie documentaire, également, alors elle regroupe la partie film et série, mais c'est aussi lié à la profondeur du catalogue. Sur Mubi, on va au sein de la catégorie, enfin au sein de... du moteur genre, on retrouve la catégorie documentaire ici au singulier. Sur la Cinéthèque, qui a plutôt tendance à s'affranchir de la catégorisation générique pour privilégier une médiation auctoriale, hein, uniquement par réalisateur ou réalisatrice, on va quand même trouver dans l'onglet type la proposition documentaire. Donc en fait, là, on retrouve les trois genres au sens du CNC, hein, documentaire, fiction, animation. Sur Tank, qui est spécialisé dans le documentaire de création, on a quand même un accès par thème et forme. Donc, la question générique est posée, mais sous un autre intitulé. En somme, je résume un petit peu, sur les plateformes généralistes grand public. Alors, c'est un peu simplifié, hein, il faudrait qu'on précise ce qu'on appelle généraliste, ce qu'on appelle grand public. Donc, je dresse un portrait vraiment à très gros traits. Le documentaire n'est pas promu. Ou alors sous un autre nom, hein, c'est ce qu'on avait avec Doc, Docu, on évite un petit peu la question. Ou le documentaire est un genre, mais finalement comme les autres, au sein d'un ensemble de catégories génériques. Sur les plateformes cinématographiques, alors quand je dis cinématographique, c'est pas forcément cinéphilique, c'est les plateformes qui vont comporter un nombre conséquent, c'est-à-dire supérieur à 50% de films qui ont été exploités en salle. Donc ils sont quand même voilà, qui comporte une profondeur de catalogue conséquente en termes de films de cinéma. Sur ces plateformes, le documentaire est un genre comme les autres. On ne va pas tellement utiliser d'appellations paragénériques, connexes, doc, docu, etc. Et sur les plateformes cinéphiliques ou spécialisées, le documentaire ne va pas tellement être promu comme un genre, mais plutôt comme un type. Et surtout, il existe plusieurs genres documentaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait ça ? Plus la plateforme est cinéphilique ou spécialisée dans le documentaire, plus elle tend à s'affranchir de la catégorisation générique traditionnelle et à accorder une place spécifique au documentaire. En forme de conclusion, qu'est-ce qu'on fait de tout ça par rapport à la question de la découvrabilité ? Mon but, ce n'est pas juste de faire de la propagande théorique. Enfin, je suis très heureuse que Samuel m'ait invité à faire de la propagande théorique pour le concept de genre-ration, mais l'idée, c'est qu'on puisse vraiment en faire quelque chose s'il s'agit de penser à la découvrabilité. Donc la découvrabilité d'un film, elle passe bien sûr par les catégories auxquelles il y a un essai et qui détermine ensuite le fonctionnement de la recommandation algorithmique. Ça, je l'ai mis, mais j'ai besoin de le dire à personne, en fait, ici dans cette salle. Ces catégories sont toujours génériques, ça c'est important, c'est-à-dire qu'elles le soient officiellement. On appelle ça des genres ou pas. Hein, pour moi, film de 1922, c'est un genre. Ça fait genre. Ça existe socialement, économiquement, sémiotiquement, comme un genre. Vieux film, film chiant, film de James Whale, ça fait genre. Film de province, film du dimanche soir, c'est des catégories génériques qu'on utilise dans la filière, qui existent en tant que catégories génériques. Donc je vous ai mis quelques exemples, DAS, type, réalisateuriste, pays, forme, etc. Donc améliorer la recommandation, ça passe par l'adaptation des catégories aux usages effectifs des publics. Là, c'est une propagande non plus théorique, mais pour la question de l'enquête. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on ne fait pas d'enquête au sens qualitatif, si on ne va pas recueillir auprès des usages des publics la manière dont eux genrent effectivement les films, on passe en fait à côté de la médiation réelle, expérientiée quotidiennement qu'en ont les différents publics. Donc il faut accepter de sortir des catégories traditionnelles, c'est-à-dire si on fait un peu de Bourdieu, j'allais dire Bourdieu pour les nuls, mais c'est pas, je ne parle pas de vous, hein, je parle de la collection de livres qui décline cette idée de pour les nuls. Donc accepter de sortir des catégories traditionnelles, recourir aux aspects formels pour les publics spécialistes, aux aspects thématiques pour les publics non spécialistes. Ce n'est pas du mépris de classe, hein, c'est juste que sociologiquement, on sait qu'il y a l'attention pour les aspects formels, plus on monte dans les publics spécialistes qui se revendiquent cinéphiles, et plus on va vers une appétence pour le thématique quand on s'éloigne des espaces qui se revendiquent cinéphiles. Et ensuite, améliorer la découvrabilité, ça passe par l'adaptation des catégories au réel des publics, où il s'agit de dégenrer le documentaire pour mieux le regenrer. Alors, on a plein de pistes de travail sur cette question. J'étais très heureuse en voyant le livret que nous a distribué Samuel de voir, en fait, la liste des 27 catégories qui sont proposées et qui vont être un petit peu la base de travail cet après-midi. Ça va complètement dans le sens de ce que je pense nécessaire en termes de l'amélioration et la découvrabilité du documentaire. Plus on va travailler à partir de catégories, plus déjà on va multi-indexer les contenus et plus on va travailler sur des catégories qui sont endogènes, qui sont autochtones, qui sont vraiment la manière dont les publics genrent les films et pas dont les institutions légitimantes. Dans l'institution légitimante, je mets l'université. Donc je dis ça en étant fait et cause, en tout cas en étant partie prenante des institutions légitimantes. Plus on va travailler avec des catégories empiriquement étudiées, plus on va pouvoir les recommander. En termes de recommandations algorithmiques, et j'arrêterai là-dessus, il faut aussi certainement arrêter, ou en tout cas dépasser, la recommandation par affinité. Hein, on sait sociologiquement, il y a un certain nombre d'enquêtes qui nous ont montré que, en sociologie des goûts, en sociologie des pratiques culturelles, que la recommandation par désamour, par exemple, est très 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 très, très utile. Proposer des contenus qui sont à l'opposé de ce que normalement les publics consomment est en fait un très très bon moyen de leur faire découvrir des objets qu'ils vont aimer. Exactement pour la même raison philosophique que la haine repose sur un petit peu d'amour. Je m'arrête là.